Oui, je suis ravie, hein, moi, de revenir ici. C'était un bon souvenir, c'était Noël. Nous voilà là, plutôt au temps de la Passion, parce que vous pourrez écouter dimanche et lundi cette œuvre jouée ici à l'Opéra. Je pense que la proposition qui va être faite, j'ai lu un peu le dossier de presse, la proposition qui sera faite risque d'être assez intéressante. En tout cas, elle me séduit pas mal. Si j'habitais pas si loin, je viendrais. Bon, des passions, selon Saint-Jean, vous pouvez en entendre régulièrement. In extenso, là, la proposition qui est faite, c'est une proposition avec des gens qui réfléchissent un peu sur l'impact que peut avoir cette œuvre-là sur chacune de nos vies et dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui est pas mal, il me semble, pour la bonne raison que ce qui se joue dans une passion, c'est pas tellement l'histoire, une histoire d'il y a 2000 ans. Bien sûr que ça raconte une histoire d'il y a 2000 ans, mais le projet même de l'écriture de l'Évangile, il n'est pas simplement pour donner une sorte de carte postale ou de reportage de ce qui se serait passé. Mais tout le temps, Bach, dans son œuvre, va interpeller l'auditeur pour lui dire « Oui, et toi, que penses-tu ? Et toi, de quel côté es-tu ? Et toi, es-tu du côté de ceux qui trahissent ou es-tu de ceux qui, du côté de ceux qui confessent ?» Alors on verra que d'ailleurs c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on peut à la fois trahir et confesser tour à tour. Et le personnage le plus important sans doute de cette œuvre, c'est le personnage de Pierre, bon après Jésus évidemment, mais celui qui participe à la passion Pierre, il est justement cette figure-là de l'hésitation, du doute. Et je lisais que Pierre Audi, ou Aodi, quel joli nom. Apparemment, le metteur en scène, là, il s'appelle Pierre Aodi. Aodi, ça veut dire « j'écoute », ce qui est extraordinaire. « Écoute » en latin. Lui, il dit que pour lui, la passion, selon Saint Jean, ça réfléchit sur le doute, ça réfléchit sur l'hésitation, et que Pierre est pour ça son personnage sans doute le plus attachant et tout ça. Moi, j'entends vraiment ça de l'œuvre de Bach en étudiant que l'œuvre. Donc ça promet quand même quelque chose d'avoir des gens qui ont cette perspective-là au moment de mettre en scène la passion. Bien sûr, si vous voulez une passion de A à Z sans aucune intervention, ce n'est pas forcément le projet du concert de dimanche et de lundi prochain. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut laisser sa chance aux propositions artistiques quand elles réfléchissent et qu'elles mettent en relief. Voilà, j'espère que le concert sera bien. Envoyez-moi un mail pour me raconter, je suis preneuse. Alors, je vous ai mis mon mail, là, helene.26@gmail.com, c'est très facile. Alors, un petit mot, je reconnais certains d'entre vous, je sais qu'il y a parmi vous des grands mélomanes, permettez-moi juste 2 secondes, je ne vais pas passer beaucoup de temps puisque le temps nous est compté, juste pour vous raconter d'où vient ce compositeur qui compose la Saint-Jean. Je ne vais pas vous faire une biographie de Bach in extenso parce que ça prendrait toute la conférence, juste donner quelques points d'accroche pour comprendre l'homme qui a composé cette œuvre. Comment il en est arrivé à composer sur l'évangile de Saint-Jean ? Il vient de cette région-là. Je ne sais pas si on voit ma petite flèche. Oui, on la voit. Ah, c'est merveilleux. Regardez la Thuringe, là. C'est la région la plus centrale qui soit en Allemagne. La Thuringe, c'est une région qui est traumatisée par la guerre de 30 ans qui a eu lieu la génération d'avant Bach, puisque c'est 1618-1648. C'est une région où une personne sur deux a péri de cette guerre ou des conséquences de cette guerre. Autrement dit, rapidement, quelqu'un qui naît dans cette terre-là de Thuringe, évidemment naît avec une conscience que la vie est fragile, que la vie est éphémère, et du coup qui se raccroche, c'était évidemment la seule option à cette époque-là, qui se raccroche en particulier à l'espérance d'une vie meilleure dans l'au-delà. Aujourd'hui, la foi, c'est une option, je dis souvent ça, hein. Croire en Dieu ou au Christ, tout ça, ça peut être tout à fait une option dans la vie. On connaît des tas de gens, et il y en a peut-être parmi nous, qui ne croient en rien de ce qui se passera peut-être après la mort. À cette époque-là, la mort étant tellement omniprésente, bien sûr que les gens se raccrochent aux branches de la foi, on va dire ça comme ça. Et Bach est quelqu'un qui est pétri de spiritualité, pétri de théologie. Il est luthérien. Il naît dans cette région-là, juste où se trouve le berceau du luthéranisme, à Eisenach. Je vous ai mis une photo comme ça d'un tableau de 1625, donc on est en pleine guerre de 30 ans, vous voyez vraiment les stigmates d'une région tout à fait désolée. Et la méditation sur la croix du Christ est bien sûr un endroit, un lieu spirituel où les gens retrouvent un peu souffle. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous disais, Bach est disciple de Luther. Luther, c'est un grand homme dans l'histoire de la spiritualité. C'est quelqu'un où il y a vraiment avant et après Luther, qui a réformé, comme on dit, l'Église, qui a créé une autre manière de vivre sa foi. Et dans cette autre manière, dans cette autre façon, le grand truc, c'est quand même que pour Luther, la musique, c'est la chose la plus importante. En tout cas, c'est la servante de la théologie, comme dit mon mot un peu prétentieux en latin, mais c'est comme ça, il parlait en latin, et en allemand. Mais voilà, la musique est la servante de la théologie. Pour Luther, la musique, c'est pas une option là non plus dans la foi. C'est vraiment un instrument qui va permettre aux gens de se rapprocher de Dieu, de garder l'espérance, etc., de méditer et tout ça. Alors, dans la Saint-Jean, c'est très compliqué. Si vous allez au concert ou si vous allez à la FNAC chercher un disque, vous trouverez des disques avec des contenus très différents, pour la bonne raison qu'on a 4 versions de manuscrits. Une première version qui a été donnée en 1724, une autre l'année d'après, parce qu'on lui a fait des reproches à Leipzig. Vous savez, il était musicien cantor depuis 1723, donc l'année d'avant à Leipzig. Et pour la première année de service à Leipzig, évidemment, il compose une Saint-Jean. Il arrive au mois de mai 1723, donc au fait de Pâques suivante, il compose une Passion, parce qu'il ne peut plus voir en peinture la Télémane qui était jouée depuis des années. Et il compose cette Passion en 1724. Et là, le consistoire de Leipzig lui fait des reproches en lui disant « Non, là, ça va pas, ça, c'est trop opératique, etc. Fais des changements. » Donc, je vous montrerai à un moment le changement qu'il a opéré. C'est assez marrant parce que pour moi, c'est encore pire. C'est-à-dire que ce qu'on lui reprochait, c'était d'être trop opératique, pas assez sérieux, pas assez, confit, contrit. Donc il réécrit une deuxième version en 1725, puis 3 ans plus tard encore, et en 1746, à la fin de sa vie, il fait encore quelques modifications. Bon, peu importe d'une certaine manière, ce qui compte ici, c'est de comprendre que Jean-Sébastien Bach, cette œuvre-là, ce que vous allez entendre dimanche, c'est une œuvre qu'il a mise sur le métier toute sa vie. C'est-à-dire que des premières années à Leipzig jusqu'à ses dernières années, 1746-47, il est mort en 1750, il est aveugle, il est vraiment en fin de vie, comme on dit aujourd'hui, et pourtant, il remet encore sur le métier cette passion, il fait des changements d'effectifs, etc. Donc sur ces 4 versions, on va en écouter 2, nous. Alternativement, je vous montrerai, à un moment, je vous montre un morceau à 2 ans, joué par l'un et par l'autre. La version de 1724, c'est un disque qui se trouve encore chez Harmonia Mundi et qui, pour moi, fait vraiment référence, qui est celle dirigée par Philippe Hervég chez Harmonia Mundi, donc. Et puis la deuxième version, c'est l'autre maître, c'est Nicolas Hernancourt, chez Teldec. Ça se trouve, sinon à la FNAC, au moins sur Internet. Je vous remettrai tous ces trucs-là dans la dernière diapositive à la fin de la conférence. Alors, si vous allez me dire « Ah oui, mais moi je n'ai qu'un disque, il faut que j'achète l'autre », ben je vous dis oui, parce qu'il y a des choses sur un disque qui ne sont pas sur l'autre et qui sont des bijoux. Donc si vous n'en avez qu'un, vous allez rater ce qu'il y aura sur l'autre. Donc il faut les deux. Et là, pour preuve, c'est le premier morceau. Mais juste un mot sur de quoi s'est fait la passion et qu'est-ce que vous allez entendre, par quelles étapes vous allez passer dimanche ou lundi prochain si vous allez au concert. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a cette structure que vous avez sous les yeux en 3 parties. Jésus qui est arrêté devant l'autorité judaïque, chez Anne et Caïphe, et puis cet épisode du reniement de Pierre tellement intéressant. Dans un deuxième temps, Jésus devant Pilate. Ce procès, comme ça, avec 2 interrogatoires, cette histoire de Barabbas et des larrons, et puis la crucifixion, la mort et la sépulture du Christ, la mise au tombeau, à la fin de l'évangile de Saint Jean. Si vous regardez bien, du début du chapitre 18, ici, jusqu'au dernier verset du chapitre 19, Bach nommait aucun verset de l'évangile. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un, tout luthérien qu'il est, qui respecte éminemment la parole évangélique et qui, du coup, ne trafique rien. Ce qu'il va faire, on le verra, c'est qu'il rajoute à un moment deux versets de la Saint Matthieu. C'est des petits détails, mais vous verrez que c'est intéressant là, d'observer ces rajouts. Dans la Saint-Jean, telle que vous l'entendez à l'oreille par Bach, on suit à peu près la même structure, sauf que Bach répartit en deux parties seulement, ces trois parties. Mais bon, voilà, vous avez l'essentiel de ce qui se passe. L'effectif, vous allez avoir beaucoup de musiciens sous les yeux. Quatre solistes, évidemment, un chœur, deux flûtistes, trois hoboïstes, en fait, il y en a souvent trois, c'est-à-dire deux qui jouent des hautbois traditionnels, mais ces deux-là ont un deuxième instrument par terre, qui sont des hautbois d'amour, et un deuxième encore instrument, un hautbois d'acacia, hautbois de chasse. Donc en fait, le hoboïste, il a trois instruments, et il joue trois instruments. Alors des fois, il y a deux musiciens, puis des fois, il y en a trois. Ils ont plusieurs instruments chacun, parce que évidemment, ils jouent à certains endroits, pas le même hautbois. Deux violes d'amour, une viole de gambe qui est mise à un endroit très particulier, des cordes, un luth très important et une basse continue qui est à la discrétion d'une certaine manière du chef d'orchestre. Ça veut dire beaucoup de monde. Par rapport à l'oratorio Noël dont on avait parlé, il manque des trompettes et il manque les timbales. Bon, bien sûr, hein, à Noël, trompette, timbale, c'est victoire, c'est... ces accents de victoire-là qui sont donnés par la trompette ou par les timbales, hein, si vous vous souvenez du chœur d'ouverture, bon, n'ont pas grand-chose à faire dans le temps de la Passion. Alors, je vous disais, je ne regarde pas du tout mes papiers, mais peu importe, il y a deux disques, il y a deux versions, 1724 et 1725, qui font vraiment référence. Dans la version de 1724, Bach compose un chœur d'ouverture absolument magistral, dont vous avez la première page ici, et dont le texte dit ceci. C'est une sorte de credo, c'est ce qu'on appelle le prologue. C'est une pièce extraordinaire. Alors, je ne sais pas vous dire du tout ce qu'ils vont jouer dimanche et lundi, parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez ce chœur-là, ce que j'espère pour vous, soit vous avez l'autre chœur qui est très beau aussi, au Mensch Bevein, mais voilà. Est-ce qu'on a le livret du concert? Parce que là, je ne vois pas Angéline. On ne l'a pas? Il n'y aura pas le texte? Ce sera projeté? Voilà. Bon, mais vous verrez, si le premier mot c'est Herr, ce sera ce chœur-là, et puis si les deux premiers mots c'est au Mensch, ben, tant pis pour nous. Mais peu importe, quand vous rentrez à la maison, il faut écouter ça, c'est vraiment magistral. On a un chœur d'ouverture, un prologue, qui constitue vraiment une sorte de credo de la part de Bach. Observez. Seigneur notre Maître, dont la gloire resplendit sur le monde, montre-nous par ta passion que toi, le vrai Fils de Dieu, par tous les temps, jusque dans la plus extrême humiliation, tu as été glorifié. Bon, un vocabulaire hyper joannique pour ceux qui apprécient l'écriture, une sorte d'invocation comme ça, de confession de foi, hein, rien que par le premier mot, hein, Seigneur notre Maître. On va essayer d'écouter ce chœur d'ouverture. Alors, il y a des gens qui ne m'ont jamais entendu, je pense, puis il y en a qui me connaissent. Ne pensez pas que vous allez rester les bras croisés pendant une heure, là, je vais vous faire travailler un peu. On va écouter ce morceau, au moins le début, et puis vous allez me dire ce que vous entendez. Il y a plein de choses à entendre, mais peut-être que là, tout de suite, on peut se demander, et si j'étais compositeur, qu'est-ce que je ferais de ce texte? Sur quel mot j'insisterais? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Alors, avez-vous des idées? Alors, ceux qui connaissent la Saint-Jean par cœur, vous oubliez hein, de répondre. Qu'est-ce qui vous semble important dans ce texte? La gloire, oui. Dessen Ruhm. Oui. Oui, alors vous dites tous les mots en fait. Mais c'est bien parce que ça veut dire que de l'un à l'autre, vous voyez bien, de l'un à l'autre, il y a des mots qui vous frappent plus que d'autres. Il y en a un qui va dire c'est Herr. L'autre qui dira, mais non, c'est Ruhm, la gloire. Ou alors c'est in allen Landen, sur toute la terre, sur le monde entier. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'une option qui est donnée. Écoutez le début et dites-moi ce que vous entendez encore une fois. Quel rapport vous faites, puisque c'est ça mon travail, à vous montrer que Bach, il prend un texte et la musique qu'il compose est au service de ce texte. Musique servante de la théologie. Allons-y. voir si le son marche aussi bien qu'à la répétition. Là, je voudrais juste qu'on parle un peu de l'introduction. Qu'avez-vous entendu ? Il y a sans doute, plus ou moins confusément, plus ou moins consciemment, trois choses à entendre. Alors, dites-moi. Je reviens au début et on va parler en même temps. Ça va vous... Alors, je vois des gestes. Est-ce que les gestes peuvent... Alors, je vois un monsieur qui fait ça. Qui joue ça ? Vous entendez ? Il y a un mouvement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, vous allez n'écouter que ça. N'écoutez pas en haut, hein. Regardez sur la partition, c'est ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est ça là. Là. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? Première chose. Que voyez-vous d'autre ? Qu'entendez-vous d'autre plutôt ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hein ? Et puis il y a autre chose, de plus facile. Ce qu'on entend le plus. Les hautbois, tout en haut, ils sont fastoches ceux-là. Ils sont parfois un peu, comment dire, inconfortables. Vous entendez ? Il y a des moments, ça, oui, c'est ça. Hein, je vois des grimaces. Vraiment, ils sont, oui, inconfortables. Ça crée quelque chose de l'ordre d'une sorte de tension, comme ça. Puis il y a une troisième chose à entendre. Qui l'a entendu ? C'est le tout début, et qui ne cesse. La basse continue. C'est la première chose qu'on entend. Écoutez que ça. Vous entendez ? Comme un balancier, comme ça. Vous entendez ? Alors on a ces violons-là, très graves, hein, qui tournent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a un musicologue qui parle de la... J'ai noté ça sur mon papier, si je le retrouve. Le remous souterrain de la canaille qui prépare ses machinations. Ils sont là, là, ils se cachent. Ça va mal se passer. La canaille qui prépare ses machinations. Et puis en dessous, on a ces deux hautbois, là. Oui ! Qui fulmine une vengeance agressive. La suite de la phrase, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose là qui se trame, vraiment. On est à l'ouverture, hein, l'Incipit. Pouvez-vous dire que, bon, alors vous le savez en venant, hein, c'est écrit sur l'affiche, hein, Passion selon saint Jean, ça finit pas très bien. C'est plutôt de l'ordre, et d'ailleurs il le dit ça dans le dossier de presse, de l'ordre de la tragédie grecque. Et c'est vrai, c'est-à-dire ces accents tragiques-là sont présents dès le prologue. Il faut vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a oui, une histoire qui finit très mal, avec un meurtre à la fin, et beaucoup de désespoir et de fatalité comme ça. Sauf que, évidemment, le discours chrétien va essayer de se sortir de ce fatum grec. Mais on a là, ça machine comme ça. Et là-dessus, vous avez ce plan avec les flûtes doublées par les hautbois qui va faire planer comme ça quelque chose. Ça vous évoque quoi, ces hautbois, là? Je vous les remets. C'est comment ça? C'est agréable? Ben non, hein, pas trop. Ça crée quoi? Une atmosphère comment? Oui, une préparation, une tension. Il y a quelque chose qui se crispe petit à petit au bout de 10 minutes. Là, quand on sort de ce prologue, c'est 10 minutes de musique. Je vous assure qu'on ne se dit pas que ça va bien se passer. Il y a vraiment, tout est là pour Bach. L'idée, c'est dans ce prologue, de créer vraiment comme le prologue. Vous savez, dans les tragédies, il y a le cœur comme ça qui commence, hein, au début de la tragédie. Alors, c'est vraiment exactement la même fonction. Oui, sachant ce qui, oui, je sais plus comment on dit la liturgie. Oui, il est le seul à le savoir. Il s'avance librement vers sa passion, dit le texte liturgique. C'est exactement ça. Et après, on a effectivement ces violoncelles qui sont doublées par les bassons qui sont là, si vous les regardez comme ça, et qui accentuent comme ça extrêmement lourdement, comme une espèce de balancier comme ça un peu tragique. Ça avance tous les deux temps comme ça, avec beaucoup de gravité et de lourdeur. On est là au début. Et voilà les voix qui rentrent. Vous vous souvenez comment elles sont rentrées, ces voix? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous ai vu. Vous avez fait quoi? Oui, vous avez sursauté. C'est-à-dire que là, encore une fois, Bach, il regarde quel est le texte. Et le texte dit « Seigneur, notre maître ». Le postulat, c'est de dire, bon, quand je dis « Seigneur, notre maître » et que je suis au début de la passion, je ne vais pas dire « Seigneur, notre maître, dont la gloire resplendit sur le monde ». Pas possible, ça marche pas comme ça. L'idée, c'est un cri, un appel. On est au début, comme au début d'un office religieux, il y a un appel à mon aide. Au début de tous les offices religieux, que ce soit une messe, un office, n'importe quoi, il y a cette idée du cri, de l'appel, comme un appel au secours. Là, c'est un appel de confession de foi. Écoutez comment ça se passe. Peut-être certains vous avez retenu, à part le fait que c'est fort, que ça vous a fait sursauter. Écoutez la structure. C'est allemand, hein, c'est construit. C'est-à-dire que vraiment l'idée, il fait trois fois. Vous savez, en pédagogie, on dit ça. Tu dis une première fois pour faire entendre, une deuxième fois pour faire comprendre et une troisième fois pour laisser digérer et que ce soit complètement assimilé. Ça fait rêver la mère de famille que je suis, si seulement on avait seulement à dire trois fois. À trois fois, vraiment, c'est plus possible, quoi. Il faut que ce soit compris. En pédagogie, on dit ça. Il faut trois fois. La troisième fois, normalement, voilà, les choses sont... C'est une histoire de rhétorique, hein, plus que de pédagogie. On a vraiment ce cri comme ça, et avec ces vocalises qui reprennent celles des cordes du départ, la canaille qui prépare ses machinations, et c'est au moment de notre maître. Il est notre maître, et c'est là qu'il y a les mêmes traits comme ça, un peu, peu glorieux, on va dire ça comme ça. Trois fois. Herr unser Herrsch. Et écoutez, vous m'avez dit « Dessen Ruhm ». Comment comment il fait pour le mettre en valeur? Das Room, comme dans Her. J'ai ces mêmes accents comme ça qui appuient avec du silence derrière. Même si vous n'êtes pas germanophone, vous entendez des mots. Il y a des mots qui vous viennent. Her, vous avez bien Her. Das Room in allen Ländern. Les accents sont mis. L'astuce, London, pour la terre, sur le monde, par tout le monde entier. Comment je fais pour dire, si je suis musicien, si vous aviez été moins timide tout à l'heure, au moment de dire sur le monde, qui se répand sur le monde, qui resplendit sur le monde, qu'est-ce qui prend comme figure? Une vocalise comme ça, qui avance et qui se répand comme ça un peu partout. Bon, il faut que j'avance, moi aussi. Mon idée, c'est qu'une heure, hein, on n'a pas beaucoup de temps, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez entendre l'ensemble de la passion. Bien sûr que je ne vais pas pouvoir commenter toute l'œuvre. Mon idée, c'est de vous donner des clés sur les différents types de choses que vous allez entendre. Donc vous allez entendre des chœurs d'ouverture, comme ça, extrêmement poétiques, avec tout l'orchestre qui est là et qui confesse d'une certaine manière la foi. Et puis, vous allez entendre aussi des formes musicales très différentes. Bon, certains d'entre vous, vous êtes très familiers de Bach. C'est la même chose que dans l'oratorio de Noël, c'est la même chose que dans les cantates, pour certaines. Vous avez trois sources. Une première source qui est celui du texte évangélique. Je vous ai montré que pas un seul verset de la Saint-Jean, de l'évangile de Saint-Jean, ne manque dans cette passion. Donc il y a une première manière de rendre compte de cette histoire, c'est ce qu'on appelle le récitatif. Et pour ça, j'ai pas pu ne pas vous passer, il faut faire des choix en une heure de conférence. Je voudrais m'arrêter sur cette séquence au jardin, c'est-à-dire le moment où il est arrêté. On est au tout début du récit, c'est vraiment tout de suite après ce cœur d'ouverture, on rentre dans le vif du sujet avec l'arrestation. Je vous ai mis cette belle image du baiser de Judas avec les torches et les lances. Alors écoutons.
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Das zu sich hatte genommen die Schar und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kommt ihr dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen.
Alors, je m'arrête là. Deux manières de faire, la récitation du texte pour faire avancer l'action. On a un ténor qu'on appelle l'évangéliste, comme dans l'oratorio Noël pour ceux qui étaient là, et qui va raconter, qui va prendre en charge la narration. Donc vous avez vu, il raconte où ça se passe, qu'est-ce qu'il se passe. Et dès qu'il y a une prise de parole, évidemment, vous allez avoir un soliste qui va prendre la parole. Quand Jésus chante, depuis le Moyen-Âge, la voix du Christ est chantée par une voix de basse. C'est comme ça, c'est une tradition, et le narrateur est un ténor. Donc on a exactement la même chose. Donc voilà cette voix de basse assez autoritaire qui prononce ces trois mots. Qui cherchez-vous? Et on va avoir une réponse en chœur. Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Écoutons.
Sie antworteten ihm, Jésus, Jésus, Jésus von Nazareth, Jésus von Nazareth, Jésus von Nazareth.
Alors, qu'avez-vous entendu? Pardon? C'est gay. C'est surprenant, ça. On a l'impression qu'ils vont à une partie de campagne. Tam, tam, pam, 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 param, piram, pam, pam. Il y a une espèce d'inconséquence, comme ça, dans ce chœur. Quelque chose d'assez fulgurant aussi. Et c'est d'ailleurs la force de la Saint-Jean. Par rapport à la Saint-Matthieu, les deux passions sont souvent comparées. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans la présentation de ces de ces deux, Andrea Spering et Pierre Audi, c'est que les deux, enfin l'un des deux a parlé d'une musique dramatique, théâtrale. Mais effectivement, une des choses qui caractérise la Saint-Jean par rapport à la Saint-Matthieu, ce sont ces chœurs-là. Dans la Saint-Jean, il y a toute une succession de chœurs extrêmement brefs et fulgurants. Vraiment, il y a quelque chose de très virtuose dans ces chœurs-là. C'est une dizaine de mesures et il y a quelque chose, une empreinte comme ça qui est faite. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, de la passion qui s'avance, on sort rincé de ces chœurs-là. C'est assez intéressant de regarder comment vous allez physiquement réagir à tous ces chœurs parce que, évidemment, tout à coup, c'est une espèce d'harmonie et puis d'épaisseur sonore, comme ça, quand il y a tant de chœurs, qu'on en prend un peu, ça décoiffe un peu, si j'ose dire. Bon, donc, il y a quelque chose à entendre dans cette réponse, en plus de la joie. N'écoutez pas les voix. Les cordes, les mêmes. On va avoir ce motif de cordes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, à chaque fois que les chœurs de foule interviennent, avec cette idée d'agressivité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans le chœur quelque chose d'un peu léger, mais maintenant vous allez réécouter les accents de ces cordes, elles sont agressives, agressantes. Bon, l'esthétique baroque, c'est une esthétique de contraste. On a cette foule qui s'agite, hein, qui est, comment dire, entraînée. Vous savez, les principes de la foule, on est bien en ce moment, on est parfait avec toutes ces manifestations. Il y en a un qui crie, et puis l'autre crie un peu plus fort, et puis encore un peu plus fort. On est entraîné. La foule entraîne, comme dit Edith Piaf. Citation d'Edith Piaf, il fallait le faire. Il y a cette idée qu'on avance, et on avance, et on avance, et on est toujours, on crie toujours un peu plus fort dans la foule. Et à contrario, chaque fois que le Christ va intervenir, alors d'abord, il parle quasiment en monosyllabe, hein. Qui cherchez-vous ? Je suis, c'est moi. Donc forcément, il y a moins à faire aussi techniquement. Mais l'idée, c'est de créer ce contraste entre quelqu'un qui s'avance librement, très calmement, et une foule qui va devenir de plus en plus agressive. Et vous serez sans doute sensible au fur et à mesure du concert à cette espèce d'opposition comme ça entre la foule qui se crispe de plus en plus jusqu'à la condamnation à mort crucifie-le, et par opposition, d'une certaine manière, toutes les paroles du Christ qui, elles, vont en se détendant d'une certaine manière, comme si il était prêt. Écoutez la suite. Judas aber, ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück. Pardon. Und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesu, Jesu, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth. Jesus antwortete, ich hab's euch gesagt, was ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Observez sans doute facilement l'accompagnement qui est quasi inexistant. Quand la voix de basse chante, on a tout à coup une espèce de dépouillement comme ça, harmonique. On a simplement la voix qui pose les mots et avec trois accords en tout et pour tout sur la phrase. Tandis que pour dire la foule entraînée de violence, assoiffée de violence, on a tout l'orchestre qui s'excite d'une certaine manière. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une des sources sonores et littéraires, c'est le livret. Comment on y met en musique le texte évangélique. Vous avez vu là, hein, j'ai soit un narrateur et puis des personnages qui prennent en charge les voix des personnages du récit. Bon. Deuxième chose, ce qu'on appelle le livret poétique, c'est-à-dire que Bach embauche un librettiste qui va écrire toute une sorte de commentaire un peu poétique autour de l'action. Et il va donc intercaler pendant le récit dramatique et pragmatique de la Passion, à l'intérieur des versets de l'Évangile, il va suspendre l'action d'une certaine manière et donner à entendre des textes poétiques, parfois ultra poétiques et très teintés de la littérature à la mode à cette époque-là, qui est le piétisme. Alors attention, surtout si vous regardez le texte, enfin quand vous le lirez au-dessus de la scène, vous verrez qu'il y a des moments, c'est un peu daté, on va dire ça comme ça, avec ce goût piétiste du sang qui coule, de la douleur, quelque chose de très doloriste comme ça. Alors, bon, je ne vous ai pas choisi l'exemple le moindre. On va regarder la histoire au moment où il est couronné. Vous savez, on lui met une couronne d'épines. Alors là, regardez ça. « Contemple mon âme avec un plaisir tourmenté, le cœur à demi étouffé d'un poids amer, ton bien suprême dans les souffrances de Jésus. » Vois comme pour toi, sur les épines qui le déchirent, fleurit la fleur qui ouvre le ciel. De son arbre aux fruits amers, tu peux cueillir de doux fruits. Aussi, ne te lasse pas de le contempler. Donc, il y a une espèce de poétisation, comme ça, de spiritualisation de tout ce qu'il voit. Un peu, tout est très sensible, tout est très charnel, on insiste sur les blessures. Une espèce de délectation, comme ça, un peu morbide, qui fait qu'on peut se dire, oh là là, mais... comment est-ce que ces textes-là peuvent nous toucher encore aujourd'hui ? C'est vraiment la question qu'il faut sans doute se poser. Bach en fait, comme avec l'air d'après, un temps qui se suspend, regarde comme son dos teinté de sang en toutes parts est semblable au ciel. Vous voyez qu'on est vraiment dans la métaphore, archi-métaphore. Bach utilise là, avec son librettiste, un texte d'un certain Brox, qui était un sénateur très, très chic, comme ça, luthérien, mais... piétiste, qui appartenait à ce courant littéraire du piétisme et qui a écrit un petit livre comme ça, dont le titre est le suivant, Jésus martyrisé et mourant pour les péchés du monde. Et ça, c'était un grand succès de librairie, messieurs, dames. C'est-à-dire que les gens achetaient ce petit livret et se le lisaient à la maison pendant la semaine sainte ou pendant le carême, sans doute. C'est un texte édité à Hambourg en 1712 que les gens connaissent par cœur et qui nourrit leur méditation. Et Bach, évidemment, en bon contemporain, insère ces textes-là. Sauf que pour nous, là, l'intérêt, c'est être un intérêt esthétique pour le coup-là. Ce livret poétique, il va le traiter dans ce qu'on appelle des récitatifs accompagnés et des airs, les fameux arias, vous savez. Donc regardez, par exemple, l'histoire du dos teinté de sang. Après, il a été battu. Le dos teinté de sang en toute part est semblable au ciel. Écoutez un peu de cette musique-là. C'est le moment pour Bach, tous ses arias et ses ariosos, de laisser libre place à la virtuosité de ses chanteurs. C'est les morceaux les plus beaux, sans doute, d'une passion. C'est là qu'on voit d'ailleurs la beauté des solistes ou leurs difficultés, parce que la musique est très difficile à chanter. J'avais vu une année là un disque. Bon, alors c'était à la station-service. Alors en même temps, on peut pas leur demander trop. Mais il y avait les plus beaux arias de Bach. Et alors vous aviez les airs de la Saint-Mathieu, les airs de la Saint-Jean, les airs de bon. Ça n'a aucun sens de faire ça parce que vraiment ces airs répondent au récit. Je vous disais, ça s'intercale dans le récit. En même temps, ce sont des bijoux vraiment. C'est-à-dire, c'est des œuvres, des petites pièces de 6-7 minutes qui sont vraiment des bijoux sonores et qui, en suspendant l'action, vont vous donner l'occasion de rentrer à l'intérieur de votre cœur et simplement de profiter de la beauté esthétique de cette musique. Écoutons un petit bout de ça. C'est pas celui-là. Voici, allez, je vais mettre ça, celui-là. Thank you. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Qu'avez-vous entendu ? Quel rapport vous faites entre la musique que vous avez entendue, qui est tombée dans vos oreilles, et le texte que vous avez sous les yeux ? Ne vous censurez pas. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Quel est ce sentiment qui sort de ce que vous avez entendu, une fois qu'on a dit que c'était beau ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Qui joue ? Comment ça joue ? C'est ? Allez-y, osez. C'est paisible ? Oui. Pas si angoissé que ça, finalement. Pourquoi c'est paisible ? Qu'est-ce qu'il a fait dans son discours musical pour que... Comment il a écrit cette musique pour qu'elle vous donne l'impression d'être apaisante ou paisible ? D'abord, le tempo est très lent. On va juste écouter la conclusion, mais c'est la même chose. Tout est très calme. Alors, c'est plutôt au début qu'il faut entendre. Écoutez, dans la musique baroque, il faut écouter toujours d'abord la basse. Alors, peut-être que vous n'avez pas fait attention trop à la basse. Écoutez. Et c'est ça qui fait que vous êtes calme à la fin. N'écoutez pas la voix. C'est très grave, hein ? Vous entendez ? Et ça va être ? Très lent, très grave. Ça prend là, physiquement, hein ? Et c'est proche du battement cardiaque. C'est-à-dire que si vous avez le cœur qui bat à ce tempo-là, c'est que vous êtes très, très calme. Écoutez ça. En pensant, observez votre rythme cardiaque. D'ailleurs, c'est un petit détail, j'adore faire ça. Vous prenez votre pouls au début du concert. Pour peu que vous soyez arrivé en retard et tout ça, ou vous soyez fâché avec votre mari ou votre femme dans la voiture, et donc vous avez le pouls qui bat hyper fort, comme ça, vous prenez le pouls. Et puis vous le faites à la fin du concert. Il faut observer, sur la musique baroque, encore plus peut-être que sur d'autres musiques, l'impact physique de la musique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe physiquement dans nos corps. Et là, regardez ça et observez votre cœur. C'est beau, hein ? Vaut mieux pas hein, que vous ayez le cœur qui batte si lentement. Ou alors vous êtes vraiment un animal à sang très froid. Mais l'idée, c'est de vous ralentir, ça vous ralentit physiquement. Après ça, il y a autre chose qui fait que c'est... Oui, bien sûr. Avant la suite, c'est ça. Voilà, bon, là, on est déjà bien avancé. Hein, c'est au moment de la couronne d'épines et tout. Le plus dur n'est pas fait. Il y a une autre chose qui reprend le premier mot, l'impératif, Betracht. Betracht, ça veut dire contemple au sens regarde autour de toi. Il y a cette idée dans ce verbe-là de quelque chose comme considère. Prends le temps de regarder un peu tout ce qu'il y a autour. Alors, qu'est-ce qui, dans le discours musical, dit le considère autour de toi ? Oui, alors le monsieur, il a un bras en écharpe, mais l'autre marche bien, il me fait ça. Vous entendez les viols de gambe qui tournent comme ça et qui font un motif circulaire. C'est-à-dire que, écoutez le début, je vais vous le signifier. Il y a cette idée-là, vous les verrez au concert, c'est ça qui est bien, c'est que regardez les musiciens, regardez ces deux gambistes-là, avec le luth en plus qui joue tout doucement, il y a vraiment cette idée tranquille de regarder partout autour, comme un arc-en-ciel, hein, comme il dira dans l'air suivant. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez dans cette Saint-Jean entendre des chœurs fulgurants, mais vous allez entendre certaines pièces, on va en entendre une autre là tout à l'heure, où tout est fait pour que l'affectivité se décharge d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de violence dans cette Saint-Jean, dans le récit même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de raconter Martine à la plage, là. Hein. C'est-à-dire que c'est très violent, ce qui se joue là, de trahison, de lâcheté, de brutalité. Enfin, mettre quelqu'un pour le tuer sur une croix avec des clous. Enfin, c'est quand même, alors nous, on est habitués, il y a même des gens qui mettent une croix autour du cou. C'est quand même un instrument de supplice ignoble. C'est-à-dire que ce qui va se jouer là, c'est d'une violence inouïe. Et les airs, les arias, les arioso et les arias, sont ces moments-là où Bach suspend cette action terrible et va libérer d'une certaine manière l'affectivité par la beauté simple de l'esthétique de ces airs, libérer les tensions accumulées. Et souvent, ils parleront à la première personne. « Contemple mon âme ». Souvent, vous observerez, hein, les arias, il y a cette idée-là de ben, « voilà, prends le temps pour toi de t'approprier ce qui est en train de se jouer ». Comme disent les deux artistes là, qui vont travailler le dimanche et lundi, il y a cette idée-là que ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui peut nous parler aujourd'hui. Et une Saint-Jean de Bach, d'après moi, une des raisons qui fait qu'en 2018, les concerts sont encore tous pleins quand on donne la Saint-Jean, c'est que ça doit bien toucher quelque chose en nous, d'un ressort, peut-être tout bêtement la peur de la mort. Mais il y a quelque chose d'affectif qui se joue là et qui est réconforté d'une certaine manière. Et ça se passe dans les airs et dans les arias, dans les arioso, souvent. Alors, je voudrais m'arrêter sur un personnage, c'est mon préféré. C'est Pierre. C'est mon préféré parce que c'est quelqu'un qui hésite, qui trahit et qui pourtant, finalement, se retrouve à la première place. Donc c'est extrêmement rassurant pour les êtres imparfaits que nous sommes. Et je voulais vous parler de Pierre aussi parce que la troisième source musicale, la troisième manière musicale dans une passion, vous avez donc le récitatif, le travail sur le texte évangélique, vous avez le travail du livret poétique, comme je viens de vous dire, et puis vous avez un autre corpus très important pour les luthériens, qui est le corpus des chorales. Tous, vous connaissez évidemment le choral, donc il y a un choral magnifique à la fin d'une séquence, la séquence qui met en scène Pierre, qui dit cela, et je vais vous le faire entendre tout de suite, et puis après on va regarder un peu ce qu'il y a avant, parce qu'un choral, c'est une sorte de confession de foi collective. C'est plus facile de chanter un choral parce qu'on est tous ensemble que de chanter un aria. Il y a quelque chose d'une sorte de réflexion qui se pose comme ça, mais une réflexion collective. Écoutons. Chose à vous dire sur le choral, vous voyez que c'est un texte poétique, court, bref, qui était connu des contemporains de Bach. Hein, les gens connaissent ces cantiques par cœur et qui résume d'une certaine manière tout ce qui vient de se passer. C'est la fin de la première partie et après vont commencer l'interrogatoire chez Pilate, la crucifixion et tout le reste. On est à la fin comme une clôture, comme ça le choral, ça vient d'une manière, vous verrez, chaque fois qu'il y a un choral, ça sanctionne comme ça une séquence, quelque chose qui vient de se passer, et le chant collectif vient là rendre compte collectivement du drame qui a eu lieu. Alors, je vous dis ça parce que, effectivement, pour celui-là, avant ça, donc ça c'est le choral numéro 14, avant ça, il y a toute une série d'actions qui se passent et qui préparent d'une certaine manière le choral. Le choral, ça vient toujours comme comme une balise, comme ça. Et là encore, un peu comme pour l'aria, le choral, vous allez voir, vous observerez aussi physiquement, pendant l'action, vous êtes un peu comme ça. Et puis quand il y a le choral, ça relâche. C'est pareil, il y a un lieu de décharge émotionnelle dans le choral qui est assez importante. Je voudrais m'arrêter sur ce Pierre. Pierre, c'est un frileux. En fait, ce n'est pas tellement qu'il est frileux, c'est que le pauvre gars, il est toujours dehors. Le texte évangélique dit qu'il est dehors et qu'il se chauffe. Alors, il y a un commentaire extraordinaire d'un père de l'Église qui dit « c'est normal, il se chauffe ». Ça insiste beaucoup sur le fait qu'il se chauffe. Et Saint-Irénée, je crois, dit « c'est normal, il fait froid quand on trahit ». Je trouve ça extraordinaire. On a froid quand on trahit. Alors, écoutons.
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seine Jünger? Nein, bist du nicht seine Dichter? Nein, bist du nicht, bist du nicht seine Dichter? Nein, bist du nicht, bist du nicht seine Dichter?
Alors, qu'avez-vous entendu ? C'est beau, hein ? Simon Pierre est là et se chauffe et on lui dit « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» Qu'est-ce qui se passe sur cette question ? Oh ben alors, allez, c'est facile là. Tout à coup, on a un cœur, c'est le monsieur qui me fait ça, on a un cœur très brutalement qui vient interpeller Pierre, mais d'une manière insistante. C'est répété, bis du nicht, bis du nicht, bis du nicht. Il y a vraiment un, c'est répété, deux, c'est très rapide, et puis il y a un motif en forme de fugue. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit, l'autre qui dit, vous savez, comme quand on est apostrophé, hey, « Eh toi !» T'en es pas un, toi ? Mais si, toi, tu le connais, je t'ai vu. Et si, et toi, et toi ? Vous savez, le principe de la foule qui apostrophe l'un l'autre, comme un homme politique qui serait dans une manifestation, et à qui on dit « toi, tu t'en vas dehors », et puis l'autre dit « toi, tu t'en vas dehors », et puis « toi, tu t'en vas dehors ». Vous voyez, c'est le principe de la foule. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un récitatif très calme, on lui dit « il a un cœur fulgurant ». Alors là, vous serez bien attention dimanche ou lundi quand on viendra au concert, parce qu'il y a vraiment un truc à faire dans l'interprétation. Là, ce que choisit Philippe Hervec, c'est la version de Philippe Hervec, c'est de créer une rupture, comme ça, un contraste, en mettant un cœur extrêmement agressif, très rapide, comme ça, vous avez entendu hein, comment ça se passe. C'est soudain, c'est là. Ça va très vite. Il est acculé. Je voudrais vous faire écouter la version de Nicolas Sarnoncourt, qui a exactement la même partition que Philippe Hervec. Et lui, il se dit, là, il y a quelque chose à faire pour montrer cette foule qui s'en prend à Pierre. Vraiment, il est acculé. Écoutez. C'est génial.
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm:
Bist du nicht seine Jünger?
Ça, c'est astucieux. Nulle part il y a écrit des mentions de tempo dans les partitions de Bach. C'est rarissime. Donc là, Harnoncourt, vous avez vu, il commence piano et très lent. C'est-à-dire, comme ça se passe en vrai, c'est ça. Il y a crescendo et accélérando. N'es-tu pas, il y en a un qui dit, n'es-tu pas un de ses disciples ? Puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Du coup, ça s'accélère et il en a de plus en plus dans les oreilles. Donc le fait qu'il soit acculé est travaillé par la nuance qui va crescendo et le tempo qui va en s'accélérant. Bon, vous verrez ce qu'ils font dimanche ou lundi soir, quand vous y serez. Mais vraiment, là, c'est très intéressant de la part d'Harnoncourt. Et puis tout de suite après, ben, on a la suite du récit.
Er leugnete aber und sprach, ich bin's nicht.
Le contraire de Jésus qui disait je suis, ich bin, tout à l'heure, ich bin nicht.
Des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm. Da verleugnete Petrus aber mal, und alsobald krähte der Hahn.
Ah, vous avez entendu le coq? Ba 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 bam, c'est le coq. On en était à créate. Créate. Ah. Voilà le coq. Et là, je l'ai mis entre parenthèses, je pense que ce sera le cas, j'espère, sur ce qui sera proposé. En fait, ici, Bach rajoute une citation qui n'est pas dans Saint Jean, un verset de Saint Matthieu. Parce que dans l'évangile de Saint Jean, on n'a pas cette image de Pierre qui, quand il entend le coq qui chante, sort et pleure. Or, évidemment que c'est super pour quelqu'un, un artiste, d'avoir un personnage comme ça qui s'effondre. Il entend le coq et tac, il sort et pleure amèrement, avec toute l'imagerie des larmes amères du Premier Testament. Donc il va chercher chez Saint Matthieu ce verset, il le rajoute dans la Saint Jean. Et écoutez comment il fait pour pleurer amèrement. Weinete bitterlich. Donc pendant que je vous parle, là, vous pouvez essayer d'imaginer, si vous étiez compositeur, comment vous feriez pour pleurer amèrement.
Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich und weinete bitterlich.
Quelle douleur dans cette ligne qui monte et qui descend, qui est extrêmement risquée, pas facile du tout à chanter. L'idée, hein, vraiment, c'est de parler de cette amertume, de ces larmes qui coulent et qui coulent. Évidemment, la ligne mélodique est descendante, comme les larmes qui coulent, etc. Bon, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire au sujet de Pierre. Il y a tout de suite après un air, dans une version ou dans l'autre, qui s'approprie d'une certaine manière, comme si l'auditeur était devenu Pierre et qui parle à la première personne. « Ah, mon cœur, où veux-tu aller enfin ? Où dois-je me réconforter ? Dois-je demeurer ici ou dois-je fuir derrière monts et collines ?» Cette idée-là du disciple qui a trahi et qui ne sait plus où se mettre, qui voudrait se cacher, non pas dans un trou de souris, mais derrière monts et collines. Mais c'est vraiment cette idée-là. Et vous verrez qu'il a un bac déborde, évidemment, d'imagination pour dire cette peur-là. Mais il faut que j'avance un peu. Est-ce que vous me permettez de déborder de 5 minutes ? Merci, parce que je suis vraiment très, très en retard. Je voudrais quand même aller jusqu'à la mort, puisque c'est la fin de l'histoire. Je passe sur le procès qui est éminemment intéressant. Manifestement, il y a une réflexion dans la mise en scène là, sur la question que Pilate pose et qui est assez centrale, sur la vérité. Tu dis la vérité. Est-ce que tu dis la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Il y a vraiment cette question-là sur le doute, sur l'hésitation, qui est une question qui taraude Pierre, mais qui taraude aussi Pilate. Et c'est apparemment quelque chose qui les intéresse, donc ce sera assez intéressant de regarder comment ils traitent dans la mise en scène cette thématique de la vérité. Ça va être une enquête pour vous, c'est pas mal. Mais laissez-moi un petit peu de temps pour mettre en lumière un petit peu cet épisode de la mort. On a vraiment affaire à de la très très belle musique là, mais où il y a des petits trucs peut-être à vous... Il faut que je vous prépare un peu le cœur, c'est mon travail. Alors écoutons donc, on est à la toute fin.
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, was die Schrift erfüllet würde, spricht er, ich dürste. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Esel und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach
ce sera bien sûr, je n'ai aucune hésitation sur ça, le moment du concert sans doute le plus émouvant. Là, il y a du silence qui s'intègre vraiment dans l'action. Es ist vollbracht. Je voulais vous dire que vous allez entendre, à partir de ce récit-là, il n'y aura plus du tout de chœur aussi fulgurant que ce qu'on a entendu sur Jésus de Nazareth, etc., von Nazareth. Là, tout à coup, les chœurs qu'on appelle les chœurs de foule se taisent. Il n'y a plus personne ne dit rien. Il n'y a plus aucune intervention en dialogue. On n'a vraiment que du récit avec un évangéliste qui prend vraiment, qui fait un pas devant et qui va prendre en charge le récit des derniers moments du Christ. Je voulais aussi vous dire que... Tout à l'heure, j'y ai pas pensé. Au moment des chorales, c'est toujours très intéressant de regarder qui chante quand vous êtes au concert. Et vous observerez que ce sont les mêmes chanteurs qui chantent « À mort, crucifie-le » ou « Jésus de Nazareth » ou « Bist du nicht, n'es-tu pas un de ses disciples ?» avec tellement d'agressivité. Ce sont ces mêmes chanteurs qui chanteront les chorales de confession de foi dont on a entendu quelques extraits. Ce sont les mêmes. Et bon, ils ont l'air de dire ça hein, dans leur dossier de presse. Il y a cette réflexion-là sur ce que nous sommes, autant traîtres que fidèles. On est un peu les deux. Et ils ont l'air d'avoir essayé de réfléchir sur ça. J'espère que c'est dommage qu'ils n'aient pas été là, parce qu'on aurait pu débattre un peu. Mais chez Bach, en tout cas, moi j'ai la vision de la passion de l'évangile de Saint Jean avec dans l'oreille ce qu'en a fait Bach. Et Bach insiste bien dans la manière dont il organise les interventions des chanteurs pour bien nous faire comprendre que voilà, c'est le même celui qui trahit et celui qui confesse. C'est exactement le même. C'est le même chanteur. Alors là, tout est accompli. Vous avez entendu, hein, là, ce moment un peu comme ça. Bach va suspendre l'action, évidemment, puisque tout est accompli. Et le texte d'après dit « Et inclinant la tête, il rendit l'esprit ». Mais il va suspendre l'action et reprendre ces trois mots. Es ist vollbracht. Écoutez juste les dernières notes du ténor, de Jésus. Ah ben c'est un peu avant.
Es ist vollbracht.
Alors, c'est particulièrement émouvant parce qu'il est a cappella. Il est définitivement seul. Quand on met un chanteur a cappella, c'est qu'on envoie un signal sonore. On dit, voilà, là, t'es tout nu, t'es tout seul. Quand t'as plus d'instrument derrière, es ist vollbracht. Vous avez la mélodie. Hein.
Es ist vollbracht.
Et tout de suite après, donc il suspend l'action et il va composer... l'air sans doute le plus connu de la Saint-Jean, qui fait pleurer, je pense, là, les trois quarts de la salle, ou alors c'est que vous avez un cœur de pierre. Mais normalement, votre cœur de pierre s'est adouci un peu à la fin de la Passion. Et ça s'appelle Es ist vollbracht. Et exactement ces notes-là. Ba, 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 ba. Écoutez l'aria qui suit, au moins le début. Broderie sur ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'il faut vous garder le cœur pour la musique en vrai, au concert. Voilà, là, vraiment l'action s'est arrêtée. On a un air d'alto. L'alto, pour Bach, c'est la voix qui souvent parle de la foi, de la conversion, de quelque chose qui se dit simplement par la foi. Sans la foi, c'est impossible de dire une chose comme ça, sans la foi. Et vous entendrez, je l'ai souligné, peut-être vous le remarquerez, ce moment où il parle de la nuit de deuil, qui est un moment d'une violence aussi assez inouïe, évidemment, la nuit d'après la mort d'un être cher. Et vous entendrez une espèce de décrescendo comme ça, très émouvant, très pathétique, et qui va aller en contraste absolu avec la deuxième partie, très vive, comme ça, comme avec des accents de victoire. Cet air, il rumine. Mais quand même, l'idée, c'est le combat se termine, tout est accompli. Comme pour dire, voilà, à la fin, c'est gagné. Il y a quelque chose qui est gagné, aussi paradoxal que ça paraisse. Et je vais m'arrêter. Je vous laisserai écouter la dernière phrase, « Il rendit l'esprit ». Un petit mot quand même du cœur de clôture, parce que vous allez sortir de là, à la fois, je pense, lessivé, et en même temps, très reposé. C'est un peu bizarre ce que je dis là, parce que tout est là pour... Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit ça en sortant l'année dernière, je suis allée écouter une Saint-Jean, et il m'a dit « je suis rincée » en sortant. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui... Et on est rincée en particulier par le dernier morceau, « Route vol ». Juste écouter le début, c'est le final, hein. C'est une sorte de vaste monument de soulagement. Tout est très poétique pour dire que l'angoisse a pris fin. Un peu comme le chanteur disait juste avant, le combat se termine, tout est accompli. On a un peu quelque chose de cet ordre-là. Là. Je ne pleure plus, le tombeau ne contient plus aucune détresse. M'ouvre le ciel et ferme les enfers. Voilà, l'enfer est fermé, tout est large. Écoutez dans votre oreille tout ce qui se passe. C'est un peu comme dans le cœur d'ouverture, vous savez, il y avait plusieurs choses dans votre oreille. Et bien là, c'est un peu la même chose. Écoutez-le avant le concert, si vous voulez, au disque. Il y a vraiment les cordes qui sont à plein archet et qui respirent comme ça. Le cœur très unanime aussi, très épais. Tout est au large, tout est très reposant. Et je vais m'arrêter avec ça et je prendrai quelques questions, si vous voulez. On va écouter un bon petit morceau de ce cœur de clôture. Thank you. hein, mais l'heure court. Alors, avez-vous des questions? Je suis confuse de ne pas avoir parlé de Pilate et tout ça, mais voilà. Il a écrit la Saint-Jean en premier, la Saint-Matthieu après. Oui, monsieur me dit la Saint-Jean reprend l'évangile. L'évangile de Saint-Jean est plus compliqué que l'évangile de Saint-Matthieu. En fait, il est plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus poétique, plus conceptuel et extrêmement théologique. Et Bach s'en est sorti d'une certaine manière en s'appuyant sur les interventions des personnages, des acteurs du drame. C'est-à-dire que tous les chœurs reprennent comme ça, se saisissent de ces failles comme ça qu'il y a dans les interventions des personnages. Et les parties plus spirituelles, plus théologiques, il les a d'une certaine manière condensées dans le chœur d'ouverture et le chœur de clôture. Il y a vraiment comme ça cet esprit joannique qu'on sent vraiment très bien dans le livret poétique. Et pour ce qui est de l'évangile même, chapitres 18 et 19, il y a peut-être un peu moins de mystère qu'il n'y en a que dans les chapitres précédents. C'est vrai que l'épisode chez Pilate, le procès chez Pilate, où il y a toute cette réflexion sur la vérité et tout ça, il y a quand même un petit paquet de gens qui sont quand même un peu largués par toutes ces questions que pose Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Bon, une fois qu'on a dit ça... mais en même temps, voilà, Bach, il a avancé, il a tracé son chemin en s'appuyant justement sur les personnages et sur ces deux personnages en particulier que sont Pilate et Pierre, Pierre et Pilate. Dans la Saint-Matthieu, on n'a pas du tout la même dynamique. Il y a beaucoup plus de personnages dès le départ. Il y a l'onction à Béthanie et tout ça. À la fin, Simon de Cyrène et tout ça. Donc, il n'a pas pu forcément aller dans le détail des personnages comme il le fait dans la Saint-Jean. Donc, on a un mouvement un peu différent. Mais c'est sûr que commencer par la Saint-Jean, alors qu'il vient d'arriver, il vient d'arriver à Leipzig, il est nommé en mai 23, Pâques 24, paf, il fait ça. C'est génialissime. Hein. Une autre question, peut-être ? J'ai oublié de dire, mais vous le savez peut-être, parce que vous avez peut-être vu le programme, hein, il y a intercalé entre la première et la deuxième partie, au début et puis entre les deux parties, deux œuvres de musique contemporaine qui seront commentées au tout début. J'ai appris ça, qu'au tout début du concert, il y aura une petite introduction, sans doute pour préparer le chœur à ne pas entendre seulement Bach, mais aussi ses résonances dans deux œuvres des années 70, je crois, 70 et 75, si j'ai bien vu. Donc bon voilà, peut-être que ça réclame sans doute plus d'ouverture encore que si on écoutait que Bach, d'avoir de la musique contemporaine comme ça. Mais bon, je veux faire le pari que ça peut nous mener loin. Voilà, mais il y aura une petite introduction au début du concert. Ben voilà, vous n'êtes pas bien bavard, hein. Ben je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois.